Vous écoutez France Culture. À voix nue. Hommage à Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie, qui nous a quittés le 11 avril 2012. Redécouvrir des entretiens qu'il avait accordés à Séverine Labat, c'était en mai 2005. Ce soir, Ben Bella, président.
Depuis deux jours, Ahmed Ben Bella, nous avons parlé de votre engagement dans les rangs du nationalisme algérien. Évoquons aujourd'hui vos années à la tête de la République algérienne indépendante. Alors, en 1962, vous vous êtes allié à l'état-major de Boumédienne, via d'ailleurs Bouteflika, qui est actuellement président de la République algérienne. Pourquoi cette alliance avec Boumédienne ?
Parce que, voilà, la présence de, je le dis sincèrement, de membres du comité central à la tête de la révolution algérienne ne me satisfait pas. Je suis quand même, vous voyez, je suis quand même un messaliste, vous savez, bon, qui a un problème avec Messali parce que je considère qu'il n'a pas été surtout avantagé par, disons, la proximité de l'histoire à l'intérieur de. Il n'a pas eu cette chance. Moi, j'étais là, vous savez, je voyais les choses. Donc, j'ai un immense respect pour lui, mais je le contredis sur certaines choses. Mais jamais je n'irai avec ceux qui l'ont combattu. Et pour moi, ceux qui l'ont combattu, ceux qui ont un moment risqué d'amener la révolution sur une voie de garage, c'est les membres du comité central. Je ne mets pas en cause leur intégrité en tant que personne, non. Certains d'entre eux, ce sont de grands intellectuels, comme Yazid, comme etc. Même, je vais vous dire même plus que ça, je l'ai dit plusieurs fois cela, ils ne font pas partie de ceux qui sont servis de drapeau algérien pour s'enrichir, les salopards qui, chez nous, ont amassé des fortunes, etc. Jamais, rarement vous trouverez un type du comité central dans ces gens-là. Les gens qui ont continué à vivre proprement, qui sont morts comme Ben Khedda, Yazid, des gens brillants, des gens, mais disons qu'il y avait des opinions qui n'étaient pas les miennes, n'est-ce pas ? Et ce ne sont pas des ennemis, parce qu'ils sont propres, ils sont pas, mais leurs convictions ne sont pas les miennes.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est exactement la carte politique de l'Algérie justement indépendante ?
Alors, voilà, justement, là, il y a une confusion formidable. Messali est rejeté. Mais c'est finalement les centralistes qui sont portés au pouvoir à travers le GPRA, etc., bon, auquel je ne crois pas.
Je rappelle que le GPRA, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne.
Mais la plupart, ce sont des centralistes qui sont des ennemis de M. Salih Haj, mais qui, pour moi, surtout, ne sont pas porteurs d'une révolution. Moi, je n'ai pas agi uniquement pour l'Algérie. Je voulais une véritable révolution dans le monde. Je voulais en finir à l'époque déjà avec le capitalisme, avec son succès d'année essentiel qui est bon, les États-Unis. Et je voulais changer un monde, voilà. À l'époque, il y avait le colonialisme, il fallait liquider le colonialisme pour passer à autre chose, mais je ne voulais pas que ce soit libéralisme, etc. Quoi ? Eh bien, autre chose, mais pas libéralisme. Et donc, je vois le GPRA, grosse cylindrée, hein, au pouvoir. Et donc, je pense que les éléments qui peuvent changer ce pays, pour moi, il faut que je cherche dans l'armée de libération nationale, les jeunes de l'armée. Parce que ce n'était pas une armée comme les autres, l'armée de libération. Il a fallu baver, il a fallu quand même. Bon. Et donc, c'est là que j'essaye. Donc, Belbek, Ferry Belkacem, Bouteflika, Medegri, qui sont très brillants, je vous assure. Très, très brillant intellectuellement.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'armée des frontières, hein, contrairement au wilaya de l'intérieur.
Non. Alors là, cette distinction, moi, je la refuse. Ça, c'est les membres, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait la révolution qui, lui, à la vision plus élargie. Ce sont des gens, ce sont des Algériens. Il n'y a pas d'armée chez nous, de l'armée au sens propre du mot. C'est des gens qui ont mis un habit pour aller se battre, pour mourir, pas pour devenir commandant, je ne sais pas. Et ce n'est pas de leur faute s'ils sont encore vivants, n'est-ce pas? Alors, parmi eux, avant ça, c'était un lycéen, Bouteflika. Medghri, qui est un homme d'État fantastique, peut-être 10 fois plus important qu'en tant qu'homme d'État, qui est mort, qui sera tué, justement, par Boumdine. Medghri, Sherif, qui est toujours vivant, etc. Mais je peux citer des dizaines comme ça, c'est des jeunes.
Et alors, pourquoi Boumedienne vous choisit-il ?
Ce n'est pas lui qui me choisit, c'est la révolution qui me choisit. Lui n'était pas grand-chose dans le cours de la révolution. Il fallait quand même quelqu'un qui a fait la révolution, qui a du poids, qui connaît les rouages de la révolution, qui puisse, etc. Ce n'est pas lui qui m'a choisi. Oui, il m'a choisi parce que c'est moi finalement qui ai été le chercher à Azhar. Qui a mis 2 mois à le convaincre.
Je rappelle qu'Al-Azhar, c'est la plus grande faculté de théologie qui existe dans le monde musulman, qui se trouve au Caire.
C'est moi qui l'ai mis dans le premier bateau, vous savez, que je vous dirais que j'ai pris par la force le bateau, on l'a volé. Hein, et on a mis son équipage en prison pour mettre notre équipage dedans et mettre Boumdine, justement, dans le fameux bateau Dina Larandina. Etc. Donc, il sait quand même à qui s'adresser lorsqu'il m'envoie Bouteflika, n'est-ce pas ?
En septembre 1963, vous êtes élu président de la République avec 95% des voix. Est-ce qu'à l'époque, vous voyez en Boumedienne votre dauphin ?
Non. Je n'ai jamais vu en Boumedienne mon dauphin. Si j'avais à choisir un dauphin, je vous dirais que j'aurais choisi Nakash. Hein ? Le ministre de la Santé, n'est-ce pas, qui était mon alter ego à l'âge de 15 ans, depuis Tlemcen, moi je connais Nakash. C'est l'homme le plus propre, le plus, etc., et le plus désintéressé des hommes qu'on peut rencontrer jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est lui que j'aurais choisi, c'est pas Boumdine.
Alors, vous faites adopter une constitution de type présidentiel qui donne beaucoup de pouvoir au parti, qui est un parti unique, et l'armée a la haute main sur les rouages de l'État. Est-ce que finalement, les institutions que vous avez mises en place quand vous étiez président de la République ne portaient-elles pas en germe le coup d'État de 1965 ? Et pourquoi ne vous êtes-vous pas opposé à la montée du rôle de l'armée, alors qu'après, vous n'allez cesser de la dénoncer.
Parce que ce n'est pas une armée classique, comme les autres armées. C'est une armée de citoyens algériens, dont beaucoup étaient des lycéens, etc. Ce n'était qu'un passage, l'armée chez eux. L'armée n'est pas une armée classique. C'est des citoyens qui sont habillés en soldats, parce qu'on leur a demandé de s'habiller en soldats, qui ont agi non pas pour rester dans l'armée, mais pour libérer ce pays. Ce n'est pas une armée comme ça, c'est une armée de libération nationale, comme toutes celles qui sont justement apparues à cette époque-là. Il y a eu des armées de libération nationale à Cuba, en Corée du Nord et un peu partout, en Indochine, etc. Donc ils n'apportaient pas en eux, disons, cette silhouette, disons, d'une armée classique, etc. Non. C'est des citoyens qui sont... Che Guevara était membre de l'armée cubaine, n'est-ce pas, etc. Il n'y avait pas de différence entre Che Guevara et Ahmed Ben Bella, ou entre Che Guevara et un type comme...
Vous diriez entre Che Guevara et Boumedienne ?
Non, moi je choisirais Che Guevara, vous savez, seulement.
Il y a de quoi quand on connaît la suite, on va y arriver. Le 19 juin 1965, vous êtes arrêté en pyjama en pleine nuit par le colonel Sbiri à la Villa Jolie. Vous n'êtes pas autorisé à prendre vos vêtements. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez être exécuté ?
Non, c'est pas vrai. Je me suis habillé. Je me suis habillé, on ne m'a pas... Et je dois dire, c'est pas pour être vrai, pour jamais, disons, je n'ai senti une volonté de m'humilier depuis ce jour-là jusqu'au moment où je suis sorti de prison. Jamais. Parce que d'abord, les officiers n'auraient jamais accepté ça. jamais les officiers, parce que j'ai été gardé essentiellement par des officiers. Je n'ai jamais eu affaire à des sous-officiers, etc.
Et quand ils débarquent en pleine nuit, vous avez l'impression que vous allez passer au peloton d'exécution ?
Moi, j'ai l'impression que c'est un coup d'État militaire, c'est tout, que tout peut arriver, n'est-ce pas ? Voilà. C'est pas des problèmes qui me préoccupent beaucoup.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs les raisons de ce putsch ?
Les raisons de ce putsch, c'est que l'Algérie avait pris une dimension importante dans la lutte de libération nationale. Même Nasser le sentait très bien, puisque lorsque le comité afro-asiatique a demandé à partir de là-bas de chez lui en Algérie, il l'a fait avec, je ne dis pas avec plaisir, mais volontiers, etc. J'ai essayé, moi, de contrecarrer ça. Nasser m'a dit non, écoute, les gens veulent vivre en Algérie. C'est vrai, l'Algérie est devenue la mecque de tous les mouvements de libération, y compris l'Indochine. Voilà. Et donc, on était embringués dans une affaire qui dépassait la frontière de l'Algérie, sincèrement. On a aidé tous les mouvements de libération, y compris ceux de l'Indochine, mais aussi en Amérique du Sud, etc.
Pourquoi vous renverser, puisque vous faites briller l'Algérie au-delà de ses frontières ?
Parce qu'il y avait une volonté, de recomposer notre paysage. Il fallait quand même recréer d'autres instruments pour une action qui est différente de celle de la libération militaire, etc. Et donc, il n'y a pas de doute que dans cette recomposition, Boumdine ne resterait pas, n'est-ce pas, aussi important, etc.
Mais
je ne voulais pas le faire tout de suite, sincèrement.
Vous, Médiane, vous a renversé parce que vous alliez l'écarter ?
Oui, parce que j'avais écarté déjà Bouteflika, j'avais écarté Médhri. Il n'avait pas été à la hauteur pour certaines choses, je les avais prévenus, n'est-ce pas ? Parce que Médhri ne voulait pas se reconvertir aux politiques. Pour lui, l'armée et tout, c'est le FLN, c'était quelque chose qui l'a contrecarré. Je l'ai mis en garde et puis finalement, j'ai dû choisir entre le FLN et Bentegri, et j'ai choisi le FLN. Pour Bouteflika, c'était la même chose. Moi, je ne crois pas à une révolution si ceux qui la font ne s'habillent pas comme révolutionnaires dans chaque minute de leur vie, etc. Je ne crois pas à ça. La première des choses qu'ils doivent l'habitude, c'est de rester propre, voilà.
Certains historiens ont évoqué, pour expliquer le putsch militaire, l'existence d'un possible accord entre vous, le Parti communiste algérien, et Aït Ahmed. Est-ce que c'est juste ?
Non, c'est pas juste. Je n'ai jamais, vous savez, moi, je n'ai jamais visé de Cuba. C'était visé de Cuba que de faire ça. Parce que je pouvais, vous savez, finalement, Boumdine, etc., je pouvais les éliminer, vous savez, d'un revers de main, voilà. Mais je n'ai pas voulu user de Cuba, tout simplement.
Et alors justement, vous dites vous auriez pu les écarter d'un revers de la main. Pourquoi vous n'avez pas mieux joué vos cartes face à l'armée alors que vous cumuliez tous les pouvoirs ? Vous étiez président de la République, vous étiez secrétaire général du FLN. Est-ce que ce putsch était inexorable ? Est-ce que vous avez vu venir le coup ?
Non, je n'ai pas vu venir le coup du putsch. C'est là où j'ai commis une erreur. Je n'ai pas, parce que nous étions tellement bien à l'époque, sincèrement. Nous avions réussi à créer quelque chose en Algérie qui était dynamique. Non seulement on avait créé pour nous quelque chose de dynamique, mais on aidait les autres, vous savez. On a aidé toute l'Afrique à se libérer. On les a aidés en leur donnant de l'argent, des armes, etc. On a aidé les gens en Amérique du Sud. Vraiment, nous, il y a eu le coup d'État en pleine apothéose. On devait tenir la fameuse réunion, rappelez-vous, de Afro-Asiatique, le deuxième Bandung. Ça s'est fait le 19, le 21, c'était la réunion. C'est pour vous dire que vraiment, on ne s'attendait pas à ça.
Voilà. Alors, vous êtes arrêté, vous êtes condamné à 15 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez fait durant vos années de détention ?
J'ai jamais été condamné, j'ai jamais été devant un juge. J'ai passé 15 ans sans être condamné, sans passer devant un juge, sans qu'on me lise une condamnation.
Qu'avez-vous fait pendant ces 15 ans ?
J'ai vécu dans un tombeau, tout ça, tout simplement. Au milieu de l'armée, 800 militaires avec des chars, etc. Et on me transportait tous les deux mois d'un endroit à l'autre jusqu'au moment où j'ai dit non, je meurs, mais je ne bouge pas, j'en ai marre de vous si malgré. Si vous voulez me liquider, vous me liquidez tout de suite, mais moi, tous les deux mois comme ça, c'est fini. Alors là, on m'a affiché la paix, mais je suis resté en prison, sans visiteurs, sans, voilà. Ce qui m'a fait tenir le coup, c'est que j'ai voulu tenir le coup d'abord. J'ai senti tout de suite qu'on essayait pas de me détruire d'une façon classique, non. Mais on a essayé de me détruire en créant le silence autour de moi. Je lisais à haute voix, je me parlais à haute voix. Je lisais le Coran, c'est à ce moment-là que j'ai appris le Coran. Je me suis dit, tiens, c'est une occasion, et le réciter. Ça, pendant 7 ans. 7 ans, il y avait un silence total, un isolement total au milieu de militaires, sans que jamais, malgré tout, je puisse sentir qu'il y ait un geste humiliant vis-à-vis de moi. C'était des officiers, j'avais affaire à des officiers. La deuxième, c'est lorsque, finalement, par un hasard inouï, ma femme vient me rejoindre, grâce à ma maman.
Alors justement, nous venons d'être rejoints par Zohra, Madame Benbella. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions un peu rocambolesques de votre mariage et est-ce que Zohra a joué un rôle important dans le fait que vous puissiez tenir?
Zohra joue un rôle capital, pas important. Et ça vient d'une façon, moi j'ai déjà la main de Dieu, je crois en cela. Un jour, ma maman me rend visite, j'ai très peu de visites, il y a la maman qui, seulement, qui me rend visite de temps en temps. D'ailleurs, qu'on balade, on la prend, elle arrive et on commence à la balader à travers l'Algérie pour qu'elle ne reconnaisse pas le lieu où je suis. Et puis un jour, avant de partir, elle me dit, Ahmed, je t'ai jamais rien demandé. Je dis, non, maman, tu m'as jamais rien demandé, c'est vrai. Je dis, mais aujourd'hui, je vais te demander quelque chose. Essaye de dire oui. C'est la seule chose que je demande et je sens que je vais m'en aller. Je lui dis, allez, vas-y, si je peux le faire. Elle me dit, eh bien, il faut te marier. Et moi, j'éclate de rire. Parce que je suis dans un tombeau, vous savez. Dans un tombeau, j'ai fait venir une femme qui accepterait de venir vivre dans un tombeau. Alors, je lui dis, écoute, avec évidemment l'idée que jamais ça se fera. Je lui dis, écoute, eh bien, cherche-moi une femme, toi. Cherche-moi une femme.
Zohra Benbella, comment vous avez été choisie pour être la femme d'Ahmed Benbella?
Je crois que c'est le destin qui nous a choisis l'un l'autre, hein, parce que c'était expliqué d'une manière logique, ça ne s'explique pas. D'abord parce que je ne pouvais pas souffrir, j'étais opposante à son régime, je ne le trouvais pas assez à gauche, et donc, en plus, je ne le trouvais même pas sexy.
Vous lui avez fait des enfants pourtant.
Eh ben oui. Et finalement, je l'ai épousé. Puis je suis tombée sous le charme.
Et vous réussissiez à le voir de temps en temps?
Non, mais on vivait ensemble.
Ah oui, donc en fait, vous étiez incarcérée.
Oui.
Quand ma mère me demande de me marier, je lui dis, bon, ben cherche-toi, moi je veux bien. Puis voilà qu'un jour, elle vient avec des photos. Et qui je vois dans cette photo? Je vois la femme que j'avais vue un jour, parce que sincèrement, bon, les gens m'aimaient bien en Algérie. Hein? Et quand je sortais dans la rue, quand les gens vraiment le faisaient sentir, les femmes, les hommes, etc. Puis je passe devant le journal du parti, et puis voilà, tous ceux qui travaillent au journal sont là. Et alors tous applaudissent comme tout le monde, etc. Un n'applaudit pas, c'était elle, elle était comme ça. Et voilà, à ce moment-là, moi je me dis, ah, mais Ahmed, tu as un contradicteur dans ton propre journal. Puis je la regarde et puis au fond de moi, je me dis sincèrement, je me dis, bon Dieu, mais celle-là, je pourrais me marier avec elle un jour. Parce que tout le monde disait, marie-toi. Et voilà la photo. Ma mère qui m'apporte les photos, je dis, ouais, c'est pas, mais si tu peux décider celle-là, je me marie. Elle vient comme ça pour accomplir un devoir, puisque c'est quelqu'un qui est en prison, elle ne peut pas dire non, elle vient pour me dire non. Elle a dit oui. Moi aussi, je me rappelle, parce que comment je l'ai connue finalement? Un jour, il faut que je la raconte ça, Sora. Un jour, Jean Arnaud qui écrit le salaire de la peur, il était chez nous, ce type-là, il travaillait avec moi, etc. Et un jour, il vient à 6 heures du matin, il frappe, il dit, je veux voir, Ahmed. Et bon, le sentinelle vient me dire, il y a Arnaud qui est là, etc. Je lui dis, qu'il monte, on prend le café ensemble. Et puis lui, il me dit, Ahmed, il y a quelque chose dont on doit te parler. Je dis quoi? Il me dit, tu sais, la femme de Boudiaf s'est sauvée de prison. Je dis, oui, non, mais je ne savais pas qu'elle était en prison, Zohra. Je te jure, je ne savais pas. Bon, je dis, comment la femme de Boudiaf s'est sauvée de prison? Elle est en prison. Ils me disent, ouais, parce qu'elle était le lien avec ce qui s'est passé dans le nord Constantine, où on avait eu 70 tués dans cette affaire-là. Et elle, c'était la poste, je veux dire. Et donc, elle jouait. Et elle a été arrêtée. Il me dit, tu sais, mais elle a été, elle s'est sauvée. Et celle qui l'a fait sauver, c'est une nommée Zahra Salami. Quand on dit la femme qui l'a fait sauver, c'est une femme qui travaille à la Révolution africaine. Je me rappelle, là, je dis au type, surtout, ne l'arrêtez pas, fichez-lui la paix.
Vous avez été gracié par le président Chadli et libéré en novembre 1980, pourquoi?
Ça, il faut lui demander. Voilà, je pense que parce qu'il y avait une très grande pression populaire, etc. Déjà des listes circulaient, etc., pour qu'on me libère. Et il l'a fait, oui, c'est à son avantage. C'est un geste qui l'honore. Voilà, je crois, sincèrement.
Alors, la première chose que vous faites lorsque vous êtes libéré, vous allez sur la tombe de Messali. Oui. Alors, Messali Hadj, qui est pourtant, donc, comme on l'a dit, au cours des différents entretiens que nous avons eus, Messali Hadj, c'est le père du nationalisme algérien et c'est un homme qui a été rayé des livres d'histoire, à qui l'histoire n'a pas rendu justice, qui est encore aujourd'hui bien minoré dans son rôle. Est-ce que vous avez voulu, par ce geste, en allant sur sa tombe, marquer symboliquement votre fidélité au PPA et marquer le fait que finalement c'est le PPA, l'ancêtre du FLN et le père de la libération de l'Algérie?
Moi, j'ai voulu rendre justice à un homme, je m'en fiche du reste. Mais mes amis me l'ont... J'ai perdu énormément d'amis, mes amis me l'ont reproché, etc. Je m'en contrefiche, ça. C'est un grand monsieur, c'est tout. Voilà, c'est un grand monsieur, c'est un peu grâce à lui que ce que nous avons fait, finalement, un jour a pu se réaliser. Je trouve que c'est vraiment mal de notre part. Je veux pas de cela, personnellement, ne pas reconnaître quand même ce qu'a fait ce bonhomme, non.
Et aujourd'hui, qu'apprennent les petits Algériens à l'école de Messali Hadj?
Rien, oui, mais je pense que ça va se réparer. Ça ne se répare pas parfois. En un jour, ni en 10 ans, ni, mais un jour, on dira tout le rôle qu'a joué M. Al-Hajj, qui était un rôle énorme. C'est un homme d'une dimension énorme, etc. Et c'est un jour, tout le monde le dira.
En quelques mots, comment définiriez-vous la spécificité du nationalisme algérien au regard justement de l'œuvre de Messali Hadj?
C'est vrai, c'est un mouvement qui porte en lui énormément des mouvements révolutionnaires qui sont produits dans le monde, et surtout des mouvements, je dirais, sincèrement marxistes, hein, ou bien trotskistes. Hein. Il a beaucoup d'apparenté avec eux, mais très ancré sur une culture. Voilà, très ancré sur une culture. C'est peut-être, on peut dire que c'est contradictoire. Eh bien oui, c'est contradictoire. Moi, je suis ça. J'ai un énorme respect pour Marx, j'ai un énorme respect pour Messali Hadj, j'ai un énorme respect pour l'émir Abdelkader, voilà, qui était lui un soufi, vous savez. Moi, je suis un peu ça.
Mais est-ce que c'est le cas de tous les acteurs de la révolution algérienne?
Non, je ne crois pas. Certains. Mais je ne veux pas me singulariser, moi, mais sincèrement, je ne vois pas beaucoup, oui. Mais disons, la dimension culturelle, oui, je la trouve. Je fais beaucoup.
En un mot, Ben Bella, c'est le Coran plus le capital?
Si vous voulez, pourquoi pas. Hein, c'est un mélange.
On se retrouve demain, si vous le voulez bien.
Oui.
Au revoir, Ahmed Ben Bella, merci. Ouais.
C'était « À voix nue », hommage à Ahmed Ben Bella, que Séverine Labat rencontrait en mai 2005. Attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Mehdi Elange, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 2 semaines sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Labat avec Ahmed Ben Bella.
Soon.